France Musique. Musique et moi.
Philippe Humeau.
Priscille Lafitte. France Musique.
Bien dire fait rire, bien faire fait taire. Thank you.
Bonjour Philippe Humeau.
Bonjour.
Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin sur France Musique. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Barbaste, depuis le Lot-et-Garonne, à mi-chemin entre Paris et Madrid.
732 kilomètres.
Vous avez fait le déplacement jusqu'au studio de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris pour Un Musique et Moi, qui s'inscrit dans la journée écarlate sur France Musique, journée de musique ancienne et spécialement consacrée aux 555 sonates de Scarlatti enregistrées par France Musique. C'est un projet de longue haleine mené par nos équipes son et vidéo qui sont enfin intégralement disponibles sur notre site. Et en tant que facteur de clavecin, Philippe Humeau, vous avez fait partie de cette aventure. Et quelle aventure ? Vous avez notamment fourni le clavecin sur lequel on vient d'entendre Olga Pachenko jouait cette sonate en si bémol majeur, Kirkpatrick 248 de Domenico Scarlatti. C'était en juillet 2018 au château de Flamarens. Donc la claviériste Olga Pachenko est précisément la marraine de cette journée européenne de musique ancienne. Qu'a-t-il de spécifique d'ailleurs ce clavecin, Philippe Humeau ?
Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est la copie d'un instrument que j'ai fait quand j'étais petit, en 1979. D'un instrument de Jean-Henri Silbermann à Strasbourg.
Vous dites que vous étiez petit à ce moment-là. Vous me disiez, pendant qu'on écoutait l'enregistrement, que vous êtes né ici, enfin, d'un point de vue professionnel, ici à la Maison de la Radio.
Voilà.
C'est ça, c'est
alors,
un pèlerinage que vous faites.
Voilà, oui, oui. Civilement, je suis né en Anjou, et un très beau pays où j'étais très heureux jusqu'à l'âge de 21, 22 ans. Et après avoir choisi ce métier de facteur de clavecin et m'être retrouvé seul un peu en Provence au début de notre activité, et après être venu dans le sud-ouest, eh bien nous sommes sortis pour la première fois de notre tanière en 1978, et cette sortie c'était ici même, à 10 mètres. Et c'était lors d'une exposition de clavecin qui avait été organisée, et c'était la première fois où tous les jeunes facteurs, la facture de clavecin en France, je dis ça entre parenthèses, existe depuis peu de temps, c'est-à-dire début des années, fin des années 60, surtout début 70, et c'est là où a commencé à émerger une quantité de jeunes qui se sont mis à faire des copies de clavecins anciens.
Donc vous avez exposé votre premier clavecin ici.
Et là, j'ai un des premiers clavecins que j'ai fait, qui était la copie d'un clavecin français 17e, qu'on copiait relativement peu, même très peu à l'époque. Et j'avais eu le bonheur de faire le relevé, de prendre des mesures, et ma femme de faire la copie de la décoration de l'original, d'un instrument qui s'appelle, dans le milieu du clavecin, le doré, parce qu'il est tout doré à la feuille. Et c'est donc ici que je suis arrivé, un petit peu en retard, la première fois, où en haut de l'escalier m'attendaient Laurence Boulay et Françoise Langelet. Et tout de suite, elles m'ont dit « Bon, maintenant il faut que tu amènes le clavecin au théâtre du Ranelagh ». On avait à peine monté la moitié de l'escalier, qu'il a fallu redescendre et porter le clavecin au théâtre du Ranelagh, parce que Françoise Langelet devait jouer le soir même en direct pour la radio sur ce clavecin qu'elle n'avait jamais joué, et moi que je n'avais jamais fourni pour un concert. Et c'était la première sortie de ce clavecin, et c'était une angoisse folle, mais comme c'était ma naissance, eh bien l'angoisse de la naissance. Voilà.
Philippe Humeau, nous allons mieux faire votre connaissance ce matin dans Musique et Moi. Vous êtes donc facteur de clavecin. Vous avez fourni des instruments, notamment pour Pierre Antaille, Bertrand Cuiller, Benjamin Allard, Blandine Verlet, Gustave Léonard, tant d'autres, Jean Rondeau, Justin Taylor. Mais le clavecin n'est pas le seul instrument qui attise votre curiosité. Il y a aussi la guitare.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger, avec des pétales de rose. Un bout de corsage lui fit, la belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit, mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu dut plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent.
Vous avez donc eu votre période Brassens.
Oui, j'ai commencé à aimer ça parce que j'ai trouvé une guitare à la maison quand j'avais 10-11 ans. Et voilà, j'ai trouvé comment faire quelques accords. Do majeur mi septième pour cette chanson là, le début c'est trop beau, et c'est ça qui m'a ouvert les oreilles. Et ça, la guitare a été un instrument très formateur pour moi au niveau de l'écoute, de savoir quelle la suite d'accords qu'on entendait, que c'était voilà, pour moi c'était fondamental, parce que c'est avec ça que on fait des canevas et que après on improvise ou qu'on crée ou qu'on écrit de la musique. C'est des couleurs. C'est des couleurs et mon métier, c'est de faire que de la couleur. Et je dis souvent qu'on est des marchands de crayons de couleur pour nos clients, parce que c'est à eux de faire les dessins et à nous de leur apporter les jolies teintes.
Et ces couleurs à la guitare, vous les avez trouvées en autodidacte ? Vous avez pris les cours ?
Autodidacte, ouais. Totalement.
En écoutant Brassens et d'autres ?
Après, on trouve des partitions, mais on voit que écrit la mineure. La mineure, ça me disait rien. Je savais pas que c'était la do-mi, mais je savais la forme que ça avait sur le manche de la guitare. Le reste m'importait peu.
Ouais. À quel moment vous avez été mordu par le jazz de la Nouvelle-Orléans ?
Eh bien, c'est un peu parallèlement, un petit peu à la suite de ça. J'ai une sœur qui nous a apporté un disque de jazz, un jour de jazz Nouvelle-Orléans. Ouais. J'étais suffoqué. L'improvisation, les canevas, et d'avoir le génie d'écrire de la musique, de jouer de la musique composée un millième de seconde avant. Ça, c'est formidable.
Alors, vous m'avez indiqué particulièrement un morceau que vous avez déniché dans une anthologie de Charlie Christian. Donc, ça se passe au Carnegie Hall en 1939. Ed Lewis est à la trompette. Lester Young au saxophone ténor. Ouais. Count Basie au piano. Joe Jones à la batterie. Écoutez bien, ouais. Charlie Christian va prendre plusieurs chorus à la guitare électrique. Thank you. Merci de nous l'avoir fait écouter, c'est phénoménal. On est en 1939, mais on est déjà dans les prémices du bebop avec ce big band.
Mais oui, c'est juste la jonction. Et,
mais la jonction entre le swing et le bebop, oui.
C'est pas une jonction brutale. Voilà, on passe d'un type de musique à un autre. Non, pas du tout. Ça se fait lentement. Ce solo de guitare de Charlie Christian, c'est fabuleux. Et le reste de l'orchestre aussi. Et parce que c'est une jam session, donc c'est enregistré en direct, il y a quatre pianistes qui jouent, voilà, c'est une vraie jam session, et ça, il y a un état d'esprit incroyable, et on se fait tirer par la musique, et c'est fou. Ouais, cet art de composer dans le millième de seconde, c'est formidable.
Est-ce que vous avez retrouvé cet état d'esprit de l'improvisation dans le milieu du baroque?
Oui, oui, bien sûr. Il y a des gens qui improvisent magnifiquement. Les organistes c'est le métier des organistes d'improviser. Et il y a des improvisateurs fabuleux. C'est relativement facile, mais d'être très très bon
avec cette même folie
improvisateur, ah ouais. C'est très difficile et on les compte sur les doigts d'une main d'ébéniste, les grands improvisateurs.
Alors forcément, Philippe Humeau, je m'interroge sur votre goût à la fois pour la guitare et le clavecin. Mmh. Il y a une proximité de son entre les deux familles d'instruments.
Oui, il y a une proximité, mais surtout pour ma part, c'est le hasard total qui m'a fait amener au clavecin. Un jour, mes parents ont acheté, il y avait deux disques de musique dite ancienne pour l'époque, c'était de Bach. Il y avait la suite en si et un disque avec Ralph Kirkpatrick, qui faisait, je crois, c'était le clavecin bien tempéré. et sur des clavecins qu'on construisait à l'époque, qui sont très différents des copies de clavecins anciens. Mais ça m'avait, j'ai énormément écouté ce disque. Mais c'est le hasard après qui m'a fait, ma vie est pleine de hasard, parce que j'étais pas du tout parti pour être facteur de clavecins. Et
c'était parti pour être quoi?
Je travaillais au siège d'une grande banque qui s'appelait le Crédit Lyonnais. Et le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré Alain Anselme, facteur d'orgue et de clavecin à l'époque, avec qui on a fait, avec ma femme, on faisait de la musique. Et puis un jour, je lui ai demandé s'il n'avait pas besoin de quelqu'un. Et voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir rentrer chez lui. Et dans son atelier, c'est le clavecin qui a pris le dessus sur l'orgue. Et mais l'orgue, je suis fasciné par l'orgue aussi. Mais pour la construction, le clavecin, c'était quand même relativement nouveau à l'époque, en 1972.
La neuvième des toccatas de Johann Jakob Froberger par Gustav Leonhardt en 1970. Gustav Leonhardt qui fait partie des figures du renouveau du baroque dans cette décennie-là, aux côtés des frères Keuken, la petite bande. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans cet enregistrement-ci, Philippe Mou?
Chez Leonhardt, c'est toujours... moi, ce que j'admire, c'est quand il fait une note... Il est capable de nous la faire regretter, de la quitter. Mais il nous fait tellement espérer la suivante que c'est quelque chose de toujours fascinant. Et c'est cette manière, je sais pas, c'est à chaque fois que je parle de Leonhardt, pour moi, c'est cette sensation-là. Et l'art de l'écoute et une apparente simplicité, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire.
Vous avez fourni, vous, des instruments pour Gustav Leonhardt?
Pour des concerts, oui, beaucoup. Oui.
Qu'est-ce qu'il demandait comme type d'instrument? Qu'est-ce qu'il recherchait comme couleur d'instrument?
Je ne sais pas ce qu'il cherchait, mais j'ai souvent fourni un instrument, une copie d'un instrument de Karl Conrad Fleischer, qui était facteur de clavecin à Hambourg dans les années 1720. Et j'avais fait la copie d'un instrument qui se trouvait à Barcelone, où j'avais pris toutes les mesures et j'avais fait la copie de cet instrument-là. Et c'est complètement fou. C'est en dehors de la raison, le clavier pas perpendiculaire, enfin des choses, des longueurs de cordes incroyables, des lieux de pincement, n'en parlons pas, des trouvailles de l'intérieur du clavecin dans le cadre du barrage, formidable. Les types étaient fous et nous on a du mal à suivre cette folie parce qu'on est des gens tellement raisonnables et qu'on veut tout réduire à des mesures. On pense que de construire une copie d'un instrument de musique, c'est de copier des mesures. Pas du tout ça. Copier les mesures d'un instrument, d'un clavecin, c'est au niveau de l'importance, d'accord, c'est beaucoup, mais la proportion de rêve que peut procurer un instrument comme ça, quand je suis arrivé à Barcelone dans ce musée et que j'ai vu cet instrument, je suis tombé amoureux de cet instrument immédiatement et c'est ça qui m'a tenu et je l'ai copié par amour et pas par mesure.
Oui, c'est Leonard qui vous demandait spécifiquement de copier tel ou tel.
Un jour, il est passé à la maison et il a essayé cet instrument. Et puis, le concert suivant, il m'a dit « Est-ce que vous pouvez pas amener ce clavecin-là ?»
Et voilà. Vous saviez pour quelle raison ?
Il aimait, c'est tout. Et vous savez, c'est de faire un instrument de musique, c'est donner la possibilité d'avoir des émotions. Et non pas d'avoir une histoire, de dire « Ah oui, mais c'était fait à telle époque, en 1600. » 82, et qu'à cette époque-là, on faisait des clavecins avec des fans brisés dans le grave et tout ça. C'est sympathique, néanmoins, ça concerne le facteur, mais c'est surtout l'émotion que ça procure, et est-ce que ça va bien avec la musique que l'on joue? C'est ça l'avantage du clavecin, c'est qu'on peut avoir des tas de variétés de clavecins qui s'adaptent très bien à la musique que l'on joue. Le clavecin, ça fait pas gling-ling, et puis c'est tout, point barre. Non, il y a des tas de gling-ling.
Oui.
Et au XVIe siècle, au XVIIe siècle, que ça soit en Italie ou en Allemagne ou en Angleterre, XVIIe, guerre de 30 ans, plus ouais. Rien. Donc c'est à la fin du XVIIe siècle qu'on retrouve des facteurs qui font des instruments qui ont été fabuleux tout le XVIIIe. Mais en Italie, on faisait toujours le même type d'instrument. Il n'y a pas de grande variété, quoique. En Angleterre, enfin c'est un champ illimité, très varié, de couleurs. Et c'est la couleur qui va mettre en relief la musique.
On va entendre dans un instant d'autres sonorités de clavecin, mais je vous propose qu'on écoute de l'orgue sous les doigts de Benjamin Allard, parce que vous me disiez un peu plus tôt que vous aviez hésité entre
le fait
d'être facteur d'orgue
oui.
ou de clavecin. Le choral BWV 739, Wie schön leuchtet der Morgenstern de Jean-Sébastien Bach. C'est une intégrale des pièces pour clavier de Jean-Sébastien Bach enregistrée par Benjamin Allard et dont France Musique est d'ailleurs partenaire.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Le facteur de clavecin Philippe Humeau est l'invité de Musique et moi ce matin. Philippe Humeau, qu'est-ce qui vous a donc fait basculer de l'orgue au clavecin quand vous avez décidé d'embrasser ce métier?
Et c'était peut-être l'émerveillement de la découverte et de tout ce qu'on pouvait en faire, tout ce à quoi il servait, le continuo, autant que de jouer des pièces solistes ou des concertos. Ça, je connaissais pas. Et en 1972, je connaissais pas tout cet univers-là.
Vous avez touché à des orgues, j'imagine.
Oui, j'ai touché, mais c'est anecdotique. J'écoutais surtout les autres, et c'est pour moi un instrument gigantesque, pas par les proportions physiques, mais par les possibilités de couleur. Parce que c'est toujours la même histoire. C'est la couleur du son, la musique, c'est de la couleur et un langage, si on veut. Mais le langage ne fait qu'associer des couleurs de son. Voilà, c'est... Et un orchestre, c'est des couleurs de son. Et c'est... Il faut fabriquer des instruments qui font du son. Voilà, et donc il faut s'intéresser au son. Donc tout est son.
Qu'est-ce que vous avez d'abord entendu dans le son du clavecin, puisque vous vous destinez au début à l'orgue? Oui. Comment est-ce que vous avez entendu les premiers clavecins?
J'ai surtout entendu la variété, la grande variété des clavecins. À l'époque, on allait souvent au musée du conservatoire, une Madrid, du temps de la comtesse de Chambure, et on pouvait avoir accès à tous les instruments, les voir de près, les toucher. Et là, ça a été une grande claque de voir tout ce qui pouvait se faire pendant des siècles. Ils ont fabriqué, enfin, la musique ancienne est très vieille. Il n'a pas d'âge puisqu'elle fait du son. Donc le son n'a pas d'âge et voilà.
Mais votre découverte du clavecin s'est faite justement à ces années de bascule, du renouveau, du regain pour
absolument,
pour
le revival, ouais. Comme on dit pour la musique Nouvelle-Orléans. Ouais.
Mais tout était nouveau à l'époque.
C'était vraiment nouveau, oui. Enfin, en tout cas pour moi et la quantité de facteurs de l'époque, on les comptait sur même pas une main.
Donc comment se transmettait? Comment est-ce que vous avez reçu le savoir-faire?
Ce que j'ai surtout appris chez Alain Anselme, et je lui ai enseigné, c'est la manière d'observer, de regarder les instruments anciens. Et à partir de là, de savoir guetter le moment où ils peuvent sonner et ils peuvent donner quelque chose de particulier, cette chose particulière qui va aller très bien avec la musique. La musique, je ne vais pas vous dire ça, mais la musique allemande ou la musique française ou la musique des virginalistes ou la musique italienne, ils ont des besoins très différents les uns des autres.
Certains sont des instruments très différents.
Voilà, oui, il y a des gens, il y a des pays où c'est la mélodie, des pays où c'est le contrepoint, et d'autres c'est la virtuosité, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être très bon dans la mélodie, tout en faisant un contrepoint génial où on entend toutes les parties, soprano, alto, ténor et basse sont bien écoutables. Et les instruments anciens permettent ça, si on fait des copies adéquates. Naturellement, il n'y a pas d'instrument idéal pour tout jouer. Ça n'existe pas.
Thank you. Frescobaldi, Toccata Settima, sous les doigts de Pierre Antaille, à partir d'un clavecin que
oui,
vous,
c'est un
vous
instrument
conçu.
Un peu particulier, un instrument italien à deux claviers dont l'original se trouve à Nuremberg. Et comme vous l'aurez remarqué, ce que vous entendez sonne une carte en dessous. Et excusez-moi de vous le dire, mais c'est très important. Parce que la gravité récupérée par ce décalage d'une carte en dessous, c'était très courant. Les instruments, une carte en dessous, il y en avait des polymégachi à l'époque, et ça donne un autre son. C'est une atmosphère très particulière. Et je trouve que Pierre a tiré un... Enfin, c'est formidable.
Ah oui, voilà. C'est un enregistrement qui fait date, qui date de 1996. Comment est-ce que vous décidez de copier tel ou tel instrument? Comment se prend cette décision?
Eh bien, parce que je tombe amoureux. Et voilà. Et c'est comme une femme, on tombe amoureux d'une femme, ouais. Et on veut l'avoir, et moi je l'ai eu. Et le clavecin, là, celui-là, ou les autres.
Vous voyez des clavecins dont vous imaginez le son, puisque...
Bien sûr, vous... quand on le voit, on tombe amoureux uniquement par l'observation.
Parce que vous n'en jouez pas.
Non, ils sont pas... ceux que j'ai copiés ne jouent pas. Ça m'intéresse pas de les entendre. Un instrument ancien qui n'a pas joué pendant 2 siècles et demi, restauré maintenant, c'est il reste que 20% de la qualité de l'original.
Alors comment est-ce qu'on imagine un son rien qu'à partir
de la vue ?
Parce que
avec des lieux de pincement, avec des longueurs de cordes, avec une manière de construire l'instrument, s'il est construit d'une manière costaud ou plutôt légère, les bois utilisés, eh bien, on peut avoir assez d'éléments pour tomber amoureux.
Donc vous fantasmez sur, instrument jusqu'à avoir terminé cette copie, oui. Où vous n'entendez réellement ce que vous avez imaginé.
Absolument,
c'est uniquement ça. Vous avez des surprises, j'imagine.
Ah bah oui, on a des
bonne
surprises
ou
parce que c'est au claveciniste qui va le jouer, qui est le seul. Moi j'ai mon petit avis, mais c'est surtout celui qui va en jouer qui doit dire s'il aime ou s'il aime pas. Et non, il n'y a pas de référence, donc c'est son propre imaginaire qui fait que on tombe amoureux de ça. Mais c'est pas des mesures, c'est pas la longueur de l'échine. Tu te rends compte, la table d'harmonie fait que 2 millimètres là et 1,8 mm ici. Ah, formidable, c'est ça. Non, ça me fait pas frémir. Mais c'est la gueule de l'instrument. Resitué dans un contexte musical particulier, et c'est ça qui fait la copie de Fleischer, c'était ça, Hambourg 1720. Donc vous imaginez tout de suite, parce que vous vous documentez, vous savez comment vit cette ville, et quels sont les musiciens, quelle est la musique qui est jouée, est-ce que c'est à l'église ou est-ce que c'est chez soi, est-ce qu'il y a des tableaux, oui il y a des tableaux. On a plein d'éléments qui permettent de se remettre dans le, d'essayer de tirer parti de la vie et de la. Est-ce qu'il y a eu des guerres? Est-ce que ça a été le bazar? Est-ce que c'était. Il y a plein d'éléments que je trouve personnellement très important. C'est très important de savoir par quelle rue passait le facteur pour aller à l'atelier et qu'est-ce qu'il voyait en train de se faire construire un palais génial. Et peut-être il y avait des peintres aussi à l'époque. Donc il y avait un architecte, il y avait des tailleurs de pierre, il y avait plein d'artistes, c'était, voilà. Et tout ça, c'est un mouvement, là où vous habitez, vous créez une ambiance, votre atmosphère à vous, et l'entourage vous aide à ça.
Donc vous faites ce voyage musical dans votre atelier?
Oui,
dans votre
hôtel. Absolument, et... je refais le plan. D'après les mesures que j'ai prises sur il y a des centaines de mesures à prendre, ouais. et on refait le plan, et après on se met à construire.
Thank you.
Auslieb, tiré de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, la soprano Monique Zanetti, accompagnée par l'orchestre Les Passions, dirigée par Jean-Marc Andrieux. C'est un enregistrement qui date de décembre 2000, qui s'est tenu, c'est un concert qui s'est tenu à la Allograin, à Toulouse. Pourquoi est-ce que vous nous avez amené cet enregistrement-ci, Philippe Humeau?
Parce que c'est trop émouvant pour en parler, tellement c'est beau. Et Jean-Marc Andrieux est un type formidable, qui n'est pas médiatisé comme il le mériterait. Mais bon, j'adore Jean-Marc, et voilà, point barre.
Vous nous parliez, Philippe Humeau, un peu plus tôt de vos recherches pour comprendre une époque, pour comprendre le son de cette époque, pour même essayer d'envisager l'environnement sonore, jusque dans les bruits de la rue. Comment est-ce que vous vous documentez? Et est-ce que vous en parlez d'ailleurs avec vos interprètes, notamment Pierre Antaille?
C'est-à-dire que les interprètes n'ont pas trop l'habitude d'aller dans les musées pour voir les clavecins anciens qui existent dans les musées. Donc c'est à nous, facteurs, d'éduquer. C'est très prétentieux, mais je le crois, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, d'éduquer les clavecinistes en leur montrant des choses qui sont les choses que l'on fait, de montrer des clavecins.
Où est-ce que vous allez particulièrement?
Ah, ma femme et moi, on a écumé l'Angleterre, on a écumé le Barcelone, c'est fabuleux. Là, si on voit pas les instruments du musée de Barcelone, on n'a rien vu. La Belgique, à Bruxelles. C'est dans les musées qu'on voit ça. Ou chez des particuliers. Ouais. Chez des particuliers qui ont des clavecins anciens.
Et vous avez la permission d'approcher les
oui,
instruments?
Oui, alors de moins en moins, c'est de moins en moins facile. Maintenant, c'est même quasiment impossible maintenant. Mais ça fait longtemps que j'en fais plus. J'en ai fait des tonnes de relevés. Et maintenant, on ne peut plus les approcher parce que c'est... voilà, il faut les préserver. Que si on... on postillonne sur un instrument, c'est pas bien. C'est peut-être juste raison, mais c'est difficile. Il y a des choses encore au musée à Paris. Il y a un instrument dont je rêve de faire la copie. Maintenant, je suis peut-être un peu trop vieux pour le faire, mais c'est
où ça, un Paris, instrument. À la Cité de la musique.
Le clavecin de Jean-André Silbermann, qui est voilà. C'est rien que de souffler, quand on en parle, ça suffit.
C'est très intuitif ce que vous me dites.
C'est très intuitif. Au départ, c'est suivant des petits trucs techniques, et puis après, on sent tout de suite si c'est du bon ou du pas bon. Mais parce que c'est rare, les instruments. On n'est pas sûr de ce qu'on a dans les musées.
Est-ce normalement, que vous faites des associations après?
Oui, il y a ça.
Vous mélangez des idées aussi.
Il y a ça, mais il y a surtout le problème, c'est l'incertitude que l'on a. Il y a beaucoup de clavecins dont on sait que ça vient de châteaux ou de princes ou de trucs, et que c'est ceux-là qu'on a gardés parce qu'ils sont souvent bien décorés et tout ça. Mais c'est peut-être pas forcément les meilleurs, et on est peut-être en train de copier des instruments qui sont pas les meilleurs. Et c'est notre rêve qu'on ne pourra jamais satisfaire, c'est de se dire, ah, j'aimerais savoir quel type d'instrument avait Jean-Sébastien Bach. On a son testament, on sait quels instruments il avait, mais il n'y a pas de nom, il n'y a rien, il y a juste une inscription sommaire. C'est difficile. En France, c'est plus facile de savoir parce que la facture française est très homogène. La facture française au 18e est très homogène. Tout le monde faisait à peu près la même chose. Et donc, il n'y a pas photo. Bach, on sait rien. Couperin, on sait pas le nom des instruments. Scarlatti, on sait les instruments qu'il avait à l'époque chez Maria Barbara. On sait que dans le Nord, c'était principalement les Flamands, les Rückers, voilà. Mais on est beaucoup embarrassé, encombré par plein d'instruments qui sont casse-pieds et qui sont très beaux à voir et qui sont très médiatisés, que c'est super. Mais bon, au fin fond, de tomber amoureux de certains instruments dont on parle beaucoup, ça m'est pas beaucoup arrivé encore.
Ouais.
Thank you.
Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Antaille, interprète de Bach dans ce concerto pour clavecin ré mineur BWV 1052. Il joue aux côtés du Concert des Nations dirigé par Jordi Savall.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le facteur de clavecin Philippe Humeau est l'invité de Musique et moi ce matin pour cette journée spéciale musique ancienne. Comment se passent les discussions entre Pierre Antaille, Jordi Savall et vous? Il y a ces moments de discussion-là?
Non, il n'y a pas ces moments-là. Pierre joue, les instrumentistes qui se connaissent tous par cœur jouent. Jordi joue. Disons que là, dans cette pièce-là, la direction d'orchestre n'est pas fondamentale. Le chef, c'est le clavecin. Et voilà. Mais Jordi, pour moi, c'était une grande partie de ma vie aussi, parce que j'ai beaucoup fourni pour les enregistrements. Et j'ai adoré travailler avec Jordi, quelqu'un de... une grande gentillesse, une fidélité, des moments fabuleux avec lui, oui.
Alors, s'il n'y a pas de discussion sur le clavecin, à quoi tient le travail, par exemple avec Jordi Savall? Sur quoi ça repose?
Et il arrive à tenir ces gens, c'est incroyable, à leur donner une énergie jusqu'à la fin de l'enregistrement, même s'il est 5 heures du matin et que l'avion à prendre est à 6 heures. Et qu'il est... là, il sort des tripes des musiciens, la substantifique moelle, voilà, parce que c'est la fin, il y a fatigue, tout le monde s'arrache. Et tout ça dans une gentillesse, parce qu'il aime ça, c'est par amour de la musique, et c'est d'une grande douceur, il n'y a pas de... non, c'est... formidable.
Ce clavecin-ci, sur lequel joue Pierre Antaille, il y a une histoire particulière?
Non, mais c'est toujours, je suis désolé, mais le hasard de la programmation fait que le premier morceau et le dernier morceau, enfin, ce morceau-là, soit le même. C'est une copie de Silbermann. Voilà, ce jour-là, à l'abbaye de Fontfroide, eh bien, c'était cet instrument-là que j'ai porté, et voilà, on en avait convenu avec Pierre.
Qu'est-ce qu'il a comme histoire, cet instrument-là?
Cet instrument, il est à Lourdes, depuis sûrement la fin du XVIIIe siècle. C'était une famille de pyrénéistes, où ça se faisait beaucoup, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, d'étudier les montagnes et les chemins, et de voir les traditions, et de voir les plantes, et de voir qu'est-ce qu'on mange, et de tout ça. Donc ça s'appelait, pour les Pyrénées, des pyrénéistes. Et c'est ce monsieur, je me souviens plus le nom, qui un chercheur de l'époque, qui est venu s'installer à Tarbes. Il venait de Strasbourg. Il s'est installé à Tarbes et de là, il pouvait aller faire les Pyrénées. Et sûrement que lui ou sa femme jouaient du clavecin, et ils ont apporté dans leur déménagement leur clavecin. Et ce clavecin, il n'est pas signé l'original, mais il y a 99,99 chances sur 100 pour que ça soit un instrument de Jean-Henri Silbermann.
Qu'est-ce qu'il fait là?
Ça y est, il est soigné, ils l'ont trempé dans la piscine, il a retrouvé tous ses pieds. Je l'avais remis en état, il était très peu abîmé, il y avait des cordes encore de l'époque, il était très peu abîmé. À l'époque, le directeur du musée de Lourdes aimait beaucoup la musique et les instruments. Il avait organisé des expositions de clavecin à Lourdes. Et puis après, ça, il est parti. Et voilà. Et depuis, il est mort, parce que j'ai fait le relevé en 1978. Et je crois que l'instrument dépérit au fin fond d'une pièce derrière à l'humidité. C'est pire qu'avant.
Mais vous n'êtes pas qu'un spécialiste de musique ancienne, selon entendre... le Boléro de Ravel dans un...
oui,
dans
j'adore.
Une instrumentation. Alors ça, j'adore. Très particulière.
Ouais. Ça, j'adore. Parce que c'est la couleur. Oh, c'est toujours pareil. C'est, excusez-moi si j'ai dit 3223 fois le mot couleur.
Juste pour préciser, on entend l'orchestre Anima Eterna, dirigé par Jos von Mersel.
Oui, et l'orchestre joue sur les instruments anciens, sur les instruments, des instruments d'époque ou des instruments montés à l'ancienne. C'est-à-dire que là, on entendait les cordes sont des cordes en boyau, comme on faisait au début du XXe siècle, pendant longtemps. C'est tout à fait autre chose. tous les instruments ont une couleur vraiment très particulière. Ils ne sont pas couverts par le bruit du voisin ou par l'intensité ou par le nombre envahissant de cordes ou de... Non, c'est d'une légèreté, c'est beau à crever.
le chef d'orchestre Josphine Marcel, qui fait remarquer dans le livret que Ravel est aussi éloigné de nous que Mozart l'était de Tchaïkovski.
Oui, c'est fou, hein.
Ouais.
C'est une conception qui nous rapproche de la musique ancienne, ça, cette recherche-là. C'est incroyable, non ? Notre siècle et le siècle dernier, c'est la première fois qu'on réinterprète des musiques d'il y a deux siècles. Donc c'est normal qu'on soit un petit peu nul. Parce que ça fait deux siècles, on a perdu l'esprit et tout ça. C'est, donc on joue les notes, on joue la musique. D'accord, très bien. Mais on n'est plus dans le coup, puisqu'on n'a plus les mêmes instruments, on n'a plus la même vie, on n'a plus le... Bon, alors on dit, on peut peut-être trouver quelque chose. Non, je crois qu'il faut être... Comme quand on est devant un tableau d'un musée, il faut être intransigeant, il faut le voir propre, tel qu'il a été fait, c'est, quand il a été fait, il faut le voir comme ça, et pas le voir deux siècles après, quand on a mis 3 mm de couche de vernis bien jaune, et que voilà...
Alors sur votre île de Barbaste, dans oui. le Lot-et-Garonne, vous ne fabriquez pas seulement des clavecins. Je crois que vous avez aussi d'autres instruments à votre arc, notamment un instrument que vous
ah
avez
oui.
fabriqué.
Alors ça c'est génial.
Oui, allez-y.
Oui, ça c'est le collachione.
Oui.
Ah, le collachione, instrument fondamental de la musique ancienne. Naturellement, comme tout le monde le sait, italien ou iranien, et qui en venant par les esclaves et atterrissant à Venise, eh bien, voilà, ils ont adapté le tambour, T-A-N-B-U-R. Le tambour iranien a été adapté, et voilà, les trois cordes se sont retrouvées, trois cordes de basse d'une famille d'instruments.
C'est la famille
qui
des luttes.
Trois,
ouais.
Oui, c'est le, oui, si vous, c'est la guitare basse du rock, si vous voulez.
Ouais.
Et, cet instrument, la basse, la grande basse n'a que trois cordes, ainsi que le ténor qui n'a que trois cordes. Et comme c'est très compliqué à jouer, le soprano n'a que deux cordes. Je blague en disant ça, mais c'est un instrument fabuleux qu'on trouve beaucoup dans les tableaux et qu'on n'entend plus beaucoup, et pas du tout. Et je pense que quand je l'ai refait pour la première fois, après, Rolf Zitzewand est tombé dessus et il m'a dit « Écoute, donne-le-moi, je vais enregistrer un disque et il me le faut ». Donc je lui ai passé mon collation que j'avais fait. Et c'est un instrument que j'adore. J'ai toujours rêvé de cette dans l'harmonie universelle de Marin Mersenne, il y a une gravure d'un collachione, et ce collachione m'a toujours fait rêver. On le voit dans l'encyclopédie, on le voit partout. C'est quand on cherche bien, si vous voulez, j'ai une conférence là-dessus toute prête qui dure 2 heures.
Voici la mise en pratique entre l'imaginaire du son que vous aviez sur ces tableaux et ouais. Voilà, on va entendre cet enregistrement de
oui,
Rolf Zitzewand.
Et c'est complètement fou, musique écrite début 17e siècle.
1640 je crois.
Thank you.
C'est Rolf Lislevand dans ce Collation de Kapsberger. Il est accompagné de Pedro Esteban aux percussions. Vous êtes donc aussi facteur de la famille des guitares. On a fait la boucle d'une guitare à l'autre.
Oui, alors non, là je suis pas facteur. C'est pour ma consommation personnelle que je fais des Collation. J'ai encore le soprano à faire, qui n'a que deux cordes. Là, ça va être difficile. Je blague, mais non,
vous en
c'est
jouez,
pour
vous
le plaisir. Oui, modestement, oui, bah oui, il faut, c'est, oui, un petit peu.
Et comme vous jouez aussi du clavecin, vous ne nous avez pas dit. Évidemment,
Faire des clavecins, vaut mieux savoir jouer pour le faire sonner un petit peu, pour harmoniser. Et si on veut accorder, c'est mieux de savoir un petit peu faire au clair de la lune. au moins reconnaître ça, mais bon, d'improviser, mais comme un facteur de clavecin qui tient un rabot à longueur de journée dans la main et qui doivent jouer du clavecin, c'est incompatible.
Donc le multi-instrumentiste,
c'est,
Philippe
Humeau, c'est fou,
était l'invité de Musique et moi ce matin. Ouais. Nous allons nous quitter, on n'a pas encore entendu Bertrand Cuiller jusque maintenant, on aura plaisir
Bertrand,
à entendre,
bien sûr,
entendre cet enregistrement qu'il a fait de Virginie Liszt,
oui,
notamment
oui,
de Bird.
Oui.
Merci beaucoup Philippe Humeau d'être venu dans Musique et moi ce matin, une émission spécialement inscrite dans cette journée écarlate sur France Musique, journée de la musique ancienne et particulièrement de Domenico Scarlatti dont vous retrouverez les 555 sonates sur le site de France Musique. Vous en entendrez aussi chez Jérémy Rousseau dans la tribune des critiques de disques tout à l'heure, ainsi que dans l'émission de Marina Chiche. Et puis faites donc un tour sur la web radio La Baroque sur le site de France Musique. Vous y trouverez des pépites. Merci à Emmanuel Morse-Duncan pour la prise de son ce matin. Marie Gros à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Passez une très belle journée baroque sur France Musique et je vous dis à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.